Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture, et l'émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Marco Leridon, Luca Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Premier temps d'une nouvelle série où l'on va s'intéresser aux villes et à ceux et celles qui les gouvernent. Demain, on ira du côté des États-Unis voir les nouvelles élues de San Francisco et Chicago. Mercredi, du côté des villes kurdes de Turquie, leur opposition à Erdogan. Et puis enfin jeudi, direction Bogota, où la maire Claudia Lopez insuffle un élan progressiste. Mais avant cela, arrêtons-nous du côté de Jérusalem, où la pandémie de coronavirus semble avoir bouleversé un peu les équilibres de la ville.
Un temps de crise comme celui-ci, c'est le moment pour les gens de faire retomber toute la pression. Et je pense que les gens comprennent en ce moment que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut se calmer. Ce virus ne fait aucune différence entre les religions ou quoi que ce soit d'autre.
J'ai une grande amitié pour les Arabes du côté est de la ville. Et je pense que pendant la crise liée au virus, nous avons fait beaucoup pour aider tous les Arabes de Jérusalem-Est. Et je crois savoir qu'ils sont très satisfaits. De mon point de vue, la partie est et la partie ouest de la ville, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence pour moi. Et je pense qu'ils le ressentent aussi.
La pandémie a été l'occasion de voir des gestes de solidarité rares avec une coopération inédite entre Israéliens et Arabes dans la lutte contre la propagation du coronavirus. C'était le cas notamment avec la visite du maire Moshe Leon qu'on entendait à l'instant dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est distribuant des aides aux plus démunis. Alors comment interpréter ce geste? Simple communication politique ou réelle intention de la municipalité d'associer les populations arabes de ces territoires annexés pour la construction d'un destin urbanistique commun? D'ailleurs, qui est cet homme? Membre du Likoud, ancien membre du cabinet Netanyahou à la fin des années 90. Qu'est-ce que sa désignation à la mairie nous dit des équilibres politiques et de leurs évolutions? Et quel est son réel pouvoir? Au-delà de cette figure, du contexte sanitaire, la situation à Jérusalem est loin d'être apaisée. Au contraire, comme on l'a vu depuis quelques jours avec l'explosion de la colère suite à la mort d'un jeune Palestinien, Iliad Alak, autiste, tué par l'armée israélienne dans la vieille ville. Quelle est la situation dans ces quartiers arabes de Jérusalem-Est? Comment voit-on la perspective des premières annexions prévues par le fameux plan de paix de Donald Trump? Comment les Palestiniens s'organisent-ils pour ne pas laisser le champ libre aux Israéliens sur ces territoires? Il y a quelques jours, l'autorité palestinienne a proposé une contre-proposition. Que prévoit-elle? Est-ce qu'elle peut changer la donne? Pour bien comprendre les choses, il faut aussi se pencher sur les équilibres internes à Israël, avec un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place, un nationalisme israélien qui se transforme sous le poids toujours grandissant des religieux, qui eux ne reconnaissent ni l'autorité de l'État, ni celle de la municipalité, comme on l'a vu lors des récents affrontements avec la police autour de leur refus de respecter les règles de confinement. Pour parler de Jérusalem, de sa gestion par les autorités israéliennes et palestiniennes, nous avons invité ce matin Sylvain Bull. Bonjour Sylvain Bull.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Paris, mais vous avez été longtemps en poste à Jérusalem. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui sont des fans de Culture Monde, ils se souviennent peut-être qu'il y a 10 ans, nous avions eu l'occasion de nous voir justement du côté de Jérusalem et de faire une émission ensemble. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui va paraître dans quelques jours, Sociologie de Jérusalem. On va retrouver dans quelques instants également Vincent Lemire depuis Jérusalem. Il n'est pas encore tout à fait en place dans les bureaux de Frédéric Mettezo, notre correspondant permanent de Radio France, qu'on retrouvera également dans cette émission. Alors on va commencer avec vous, Sylvain Bull. Le maire de Jérusalem, dont j'ai introduit un tout petit peu la figure, Moshe Leon, s'est rendu pendant la pandémie dans les quartiers arabes du camp de Shuafat, donc dans une partie de Jérusalem-Est, conquise, annexée en 1967. C'était la première fois qu'un maire de Jérusalem s'y rendait. Il y a distribué lui-même des colis alimentaires. Comment vous interprétez-vous ce geste? J'ai parlé d'un geste de solidarité à l'égard de ces quartiers désœuvrés de Jérusalem-Est. Est-ce que c'est aussi autre chose, Sylvain Bull?
Oui, alors on peut dire que c'est un geste de solidarité au sens minimal du terme. De mon point de vue, c'est surtout un geste technique. Il l'a dit lui-même, Moshe Leon, et je crois que vous en avez fait part dans le petit extrait sonore. Il a très vite déclaré au moment de la pandémie, notre ennemi, c'est le coronavirus. Les Palestiniens ne sont pas les ennemis d'Israël, Israël n'est pas l'ennemi des Palestiniens, et il lui a fallu tout de suite trouver des moyens très pratiques, très techniques, pour dresser un cordon sanitaire concernant cette pandémie. Peut-être on peut aussi en rappeler que Moshe Leon, certes, a été le chef de cabinet du Likoud et de Netanyahou, mais c'est un comptable, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui est issu plutôt des classes populaires et moyennes. C'est un Sabri, c'est un natif d'Israël, ça n'est pas un Ashkenaz, c'est le premier maire non Ashkenaz de la ville et qui a, alors peut-être non pas une empathie, mais en tout cas qui connaît les classes populaires. Ça peut expliquer pourquoi il est allé à Shorfat. Ça ne veut pas dire qu'il est dans une gestion inclusive, hein, on peut revenir là-dessus, mais en effet, une gestion pratique, rationnelle et doloriste ou empathique.
On reviendra sur le contexte de son élection, de sa désignation, et essayer de voir ce que tout cela nous dit, peut-être de l'évolution des équilibres politiques. Mais si on reste sur cette visite-là, d'abord, il faut aussi préciser, Sylvain Bull, que cet activisme soudain, qui est peut-être effectivement motivé par des choses tout à fait une véritable conviction de Moshe Leon, mais ça répond aussi à un activisme pris du côté palestinien. Il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par l'autorité palestinienne dans ces quartiers pour répondre à cette crise du Covid. Donc on a un activisme qui répond à un autre activisme.
C'est ça. Alors, en effet, il faut d'abord dire que la visite de Moshe Leon, justement, elle est intervenue après qu'il y a eu des déclarations à la presse, dans des médias alternatifs, du chef local de Beit Hanina, qui est une banlieue inclue dans Jérusalem, ainsi que de Silwan. Alors, en effet, il y a une tradition de coopération avec certaines parties de la population de Jérusalem-Est, notamment des vieux chefs, des vieux leaders, qui ont toujours eu leur entrée à Jérusalem. Et il y a eu d'autre part quelque chose que l'on connaissait, mais là, pour le coup, qui s'est révélé dans la gestion de la pandémie. On sait que les Palestiniens sont très organisés au niveau local, que ce soit informellement, formellement, il y a un certain nombre de comités qui tout de suite se sont mis en œuvre, puisque les Palestiniens, comme vous le savez, à Jérusalem-Est ou pas, ou au-delà, sont très habitués à résister, à s'organiser dans les gestions de crise. Donc tout de suite et très vite, ces comités ont été réactivés et ont tout de suite déclaré leur besoin de matériel. Hein. La coopération, il faut le dire, se situe encore une fois à un niveau très technique, très médical et sanitaire. Les comités ont demandé à ce que la municipalité gère un certain nombre de masques, de tests de dépistage, etc. Il faut quand même rappeler que tout au départ, c'est-à-dire pendant les 3 premières semaines, puisque le confinement a eu lieu avant le confinement européen en Israël, il n'y a eu aucune intervention de la mairie dans les quartiers de Jérusalem-Est. Et du coup, on a vu s'organiser encore d'autres formes de comités, plus informels, plus sauvages, on pourrait revenir là-dessus. L'autorité, en effet, qui n'est pas reconnue à Jérusalem, a fait revenir le ministre informel de Jérusalem ainsi que le gouverneur, qui ont pris les choses en main. Et c'est à partir du moment où la police et les forces armées, hein, parce que n'oublions pas que c'est les forces armées qui ont géré, hein, la pandémie et non pas la police, se sont rendus compte qu'il y avait à nouveau un certain type de comité sauvage qui réapparaissait et qui n'était pas apparu depuis 20 ans, que Moshe Leon a pris les choses en main. Donc c'est en effet un éclairage assez subtil et assez intéressant d'un activisme qui réveille une discipline municipale au sens autoritaire de terme et qui en même temps a renforcé l'activisme palestinien et le rôle d'un certain nombre de personnes assez centrales dans les comités. Indirectement, hein, le gagnant collatéral, c'est le ministre, c'est l'autorité palestinienne en effet, qui a de son côté très très bien géré la pandémie dans la Cisjordanie. Et comme vous le savez, les territoires et la porosité avec Jérusalem est totale. On pourrait revenir là aussi là-dessus sur la gestion des zones intermédiaires qui s'est plutôt bien passée alors qu'il n'y a pas d'autorité juridique, administrative et souveraine dans des zones qui n'appartiennent ni à Jérusalem ni à la Cisjordanie.
Parce qu'il y a des initiatives locales qui ont été mises en place.
Absolument. Ouais. Encore une fois, c'est la grande
leçon. Sans institution. Alors qu'il n'y a pas d'institution. Alors qu'on a un manque d'institution.
Absolument, ouais. Absolument. Ce qui veut dire, et ça on le note depuis 5 ou 6 ans, c'est que, et là peut-être qu'on rentrerait dans des questions beaucoup plus politiques, on a une nouvelle génération que vous avez appelée activiste. Alors c'est un certain type d'activiste. Ce sont les jeunes palestiniens trentenaires qu'on a appelés de la génération Oslo déçue, qui eux, depuis leur naissance quasiment, ont toujours fait sans les institutions, quelles qu'elles soient, mmh. et ont un très grand mépris, sinon un dégoût, des administrations, quelles qu'elles soient, israéliennes et palestiniennes. Mmh. Et cette génération-là est absolument tournée vers ce que nous appellerions aux États-Unis, et du reste, il y aurait des similitudes à établir, le community organizing, l'empowerment, et font en effet des choses au niveau de leur quartier.
Mais est-ce que ça veut dire, Sylvaine Bull, pardon de vous couper, est-ce que ça veut dire, Sylvaine Bull, que les institutions palestiniennes qui existent concernant Jérusalem n'ont absolument aucun pouvoir, aucune marge de manœuvre, parce que il y a des institutions palestiniennes, il y a un gouverneur palestinien de Jérusalem qui s'appelle Adnan Guett, il y a un ministre mm-hmm. palestinien des affaires de Jérusalem qui s'appelle Fadi Al-Admi, hein, je ne les connaissais pas, hein, j'ai évidemment découvert leur nom en préparant cette émission, mais on se demande quel est leur pouvoir exact. Est-ce que réellement ils sont totalement absents et en réalité ils n'ont aucun pouvoir, aucune marge de manœuvre et ils ne servent à rien, ou est-ce que quand même, ils sont là et ils ont des capacités?
Non, alors ils sont là informellement, hein, et n'oublions pas que les deux que vous avez cités ont d'ailleurs été évincés dès le début de la pandémie, puisqu'ils étaient revenus de façon un peu aventurière. Officiellement, le gouverneur n'a pas de pouvoir, ni le ministre. Il représente l'autorité, mais l'autorité elle-même est interdite à Jérusalem, qui, comme vous le savez, est sous souveraineté israélienne. Mais en effet, encore une fois, la pandémie a éclairé cette capacité d'organisation, reconnue ou pas, informelle ou pas, dans les quartiers populaires, et en effet pour combler un déficit évident des institutions israéliennes qui sont très peu présentes, pour ne pas dire inexistantes, que ce soit sur le sanitaire, le médical, le scolaire, etc. Et de ce point de vue-là, Moshe Leon peut peut-être trouver des alliances auprès de cette jeune génération, mais qui n'est pas celle de l'autorité palestinienne, qui n'est pas le gouverneur, etc. Ce sont encore une fois plutôt des jeunes qui cherchent plutôt à travailler de façon horizontale et sans se référer à une institution quelconque.
Ça y est, Sylvaine Bull, nous avons retrouvé Vincent Lemire qui est avec nous depuis Jérusalem. Bonjour Vincent Lemire.
Bonjour à vous, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct de Jérusalem. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de Recherche Français de Jérusalem et que vous avez dirigé un ouvrage collectif, Jérusalem, histoire d'une ville-monde que j'ai sous les yeux, qui était paru chez Flammarion. On parle ce matin de cette municipalité de Jérusalem, de ce maire Moshe Leon qui a été élu en 2018. Je le disais tout à l'heure, on en parlait avec Sylvaine Bull, membre du Likoud, Moshe Leon. Il avait été désigné maire grâce au soutien des religieux, mais aussi des libéraux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Vincent Lemire, sur le contexte de cette élection, sur cette figure qui est un peu particulière, peut-être un peu en rupture par rapport à ce qu'on avait à la municipalité de Jérusalem jusqu'ici. Rappelez-nous, et puis aussi, ce qu'on va regarder, c'est ce que sa désignation nous dit de l'évolution des équilibres politiques. Vincent Lemire.
Oui, effectivement, Moshe Leon, il est un petit peu sorti de nulle part, personne ne le connaissait, et d'une certaine manière, il se révèle à l'occasion de cette crise. On avait avant lui un maire, effectivement, de droite, mais plutôt moderniste. On avait eu une expérience avec un maire religieux orthodoxe. Donc, Moshe Leon, il est ni l'un ni l'autre. Et effectivement, à l'occasion de cette crise, il a en tout cas, du point de vue de l'image, il a en tout cas cherché à montrer sa solidarité avec les populations de Jérusalem-Est. Alors je souligne seulement que une crise sanitaire en fait exige des responsables de terrain, des responsables politiques, une action latérale sur l'ensemble des populations, et donc il faut pas forcément y voir une direction politique nouvelle. Il faut y voir effectivement une bonne dose de pragmatisme, et puis après tout, dans la logique du discours annexionniste envers Jérusalem-Est, il est logique effectivement que les populations de Jérusalem-Est soient concernées par les mesures qui avaient été prises à l'Est.
Vincent Lemire, on va poursuivre ensemble. La liaison n'est pas parfaite, on vous entend à peu près. Si ça venait à se dégrader, nous vous rappellerions pour refaire une liaison un peu meilleure. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent Lemire, le projet de Moshe Léon? Vous nous dites que c'est un pragmatique, j'entends. Mais quel est son projet politique pour la municipalité, Vincent Lemire?
Et son projet, c'est de reprendre le rattachement de Jérusalem à Israël, qui, comme vous le savez, constitutionnellement le 1980.
Alors, Vincent Lemire, on vous entend vraiment très mal, et puis il y a des sonneries qu'on entend sur la ligne, on va essayer de refaire une ligne. Sylvain Bull, je vais vous poser cette même question. Le projet politique de Moshe Léon, est-ce qu'il est pragmatique au point, au fond, d'appliquer quelque chose qui serait un peu différent de ce qui est pensé au niveau national, ou est-ce qu'en réalité, il n'est là que pour mettre en place, d'un point de vue très technique, des décisions qui sont prises ailleurs et évidemment au niveau de l'exécutif, Sylvain Bull?
Non, alors il y a plusieurs choses. D'une part, la municipalité de Jérusalem, contrairement aux autres municipalités, notamment Tel Aviv, a beaucoup, beaucoup plus de pouvoir et de prérogatives du point de vue politique et juridique, parce que c'est Jérusalem, et que c'est un enjeu national, symbolique, religieux, et que c'est la capitale, entre guillemets, éternelle d'Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Moshe Léon, moi, je ne dirais pas qu'il vient de nulle part. Hein. Moshe Léon vient du Likoud, il est le religieux, il n'est pas forcément laïque, et il est, en somme, il arrive surtout, c'est sa chance, un peu en fin de comète, j'ai envie de dire, dans la mesure où la légitimité, ou plutôt la souveraineté de Jérusalem n'est plus discutée. Que l'on soit d'accord ou pas, que les Palestiniens, évidemment, le contestent ou pas, mais on peut dire que les grands projets qui ont décidé de la mise en place de la Jérusalem unifiée, annexant Jérusalem-Est, sont terminés. Lui arrive après des maires très emblématique, comme Teddy Kollek, mais même Nir Barakat, qui l'a précédé, qui était vraiment chargé de terminer, achever l'annexion de Jérusalem, et d'unifier, d'homogénéiser même, les parties de la ville.
Teddy Kollek était vraiment une grande figure, qui a été maire de la ville de 65 à 2003, voilà. C'est vraiment l'une des grandes figures. Hein.
Absolument, qui est auteur aussi, hein, qui a beaucoup écrit, qui était un humaniste travailliste, le seul maire travailliste. Moshe Léon, en fait, a une autre mission qui me semble beaucoup, beaucoup plus importante pour Jérusalem, c'est la question du statu quo. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire ces différentes interventions. Encore une fois, ça n'est pas un politique, ça n'est pas quelqu'un de charismatique, ça n'est pas quelqu'un qui va gérer l'annexion de Jérusalem, qui encore une fois a déjà été décidée et se fait plus ou moins là pour le coup ailleurs avec les États-Unis, mais c'est quelqu'un qui est quand même l'homme qui est le maître d'œuvre et l'exécutant de la remise en cause du statu quo, c'est-à-dire de l'équilibre de la sphère religieuse, de la sphère civile et de la sphère politique à Jérusalem.
Est-ce qu'on peut élargir, généraliser ce propos, et on va retrouver Vincent Lemire, je pense que la ligne doit être bien meilleure, et dire qu'au fond, quelle que soit précisément la figure du maire de Jérusalem, il est là pour mettre en œuvre des décisions politiques qui ne lui appartiennent pas, et que d'une certaine manière, il est il est là en technicien d'une certaine manière, Vincent Lemire. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est enlever un caractère proprement politique à son action, Vincent Lemire?
Oui, bonjour, oui, je pense que la ligne est meilleure.
C'est bien meilleur, ça y est, on vous entend bien.
Je suis en quatorzaine, alors c'est peut-être la raison. Je souscris absolument à ce que vient de dire Sylvain Bull et à votre question d'une certaine manière. D'une certaine manière, je trouve que le parallèle avec la municipalité de parisienne est assez juste de ce point de vue-là. À partir du moment où Jérusalem est considérée comme une capitale par Israël, le pouvoir municipal ne va pas de soi. Hein, de la même manière pour Paris jusqu'en 1978. Et donc le pouvoir national israélien ne voit de toute façon jamais d'un très bon œil qu'il puisse y avoir une autonomisation politique, toute chose égale par ailleurs, hein, du pouvoir municipal
dans sa ville capitale. Il faut quand même rappeler qu'il y a régulièrement un ministre de Jérusalem dans le gouvernement israélien. Vous l'avez peut-être déjà rappelé, mais alors il se trouve que là, le portefeuille a à nouveau été occupé, hein, est à nouveau occupé par Rafi Peretz, qui est membre de la de Bayit Yehudi, donc vraiment la droite extrême. Donc voilà, imaginez qu'il y a un ministre de Paris dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc la marge de manœuvre en fait du pouvoir municipal de Jérusalem-Ouest est faible. Effectivement, vous venez de parler là de Teddy Kollek. Finalement, la période 1967 jusqu'à 1970-71, hein, pendant 3-4 ans, c'est le seul moment où il y a vraiment eu une tentative d'intégration. Et là, je parle bien d'intégration et non pas d'annexion, hein, c'est pas la même chose, d'intégration de l'ancienne municipalité de Jérusalem-Est aux structures municipales de l'Ouest, avec y compris un certain nombre de fonctionnaires municipaux de l'ex-municipalité jordanienne, y compris le directeur des services d'ingénieurs, etc., enfin, qui étaient intégrés vraiment aux structures de l'Ouest. Et puis ensuite, on pourrait dire la high politique, et notamment la décision de l'OLP de faire de Jérusalem un des sujets majeurs de la mobilisation, avec la reprise des attentats, etc. Assez petit à petit, la pression s'est accrue, en fait, sur les anciens fonctionnaires de Jérusalem-Est, et ils se sont retirés. Et donc, aujourd'hui, hein, depuis le début des années 70, on a effectivement une municipalité de Jérusalem-Ouest, élue par Jérusalem-Ouest, sous dépendance gouvernementale pour toutes les décisions structurantes, en particulier décisions d'aménagement, etc., qui s'occupe bien mal de la population de Jérusalem-Est. Et donc la crise sanitaire vient percuter cette longue tendance-là.
Et donc ça veut dire, si je reprends votre propos, ça veut dire qu'à l'époque, c'était les... Alors, je sais pas quel statut ils avaient. Étaient-ce des conseillers municipaux palestiniens? J'en sais rien, intégrés dans cette municipalité. Mais ce sont eux qui ont souhaité sortir de cette institution.
Alors, oui. En 1967. Alors, ils sont pas conseillers municipaux au sens, c'est-à-dire que il y a jamais eu d'élection où la totalité de la population a participé. Voilà. C'est ça qui manque, hein. C'est ça qui manque, et c'est ça qui manquera sans doute encore longtemps dans le contexte actuel. Donc il n'y a pas de légitimité, on va dire, populaire électorale, d'accord ? Il n'y a pas de base électorale. Mais en 67, quand Teddy Kollek, il est élu depuis 65, hein, donc il est en place depuis 2 ans, il a un très jeune adjoint qui s'appelle Meron Benzenisti, qui est de gauche comme lui, qui est d'ailleurs historien, médiéviste, arabisant, qui va être chargé, qui a 33 ans, imaginez, et qui va devenir l'adjoint aux affaires de Jérusalem-Est, et qui va vraiment chercher à intégrer une grande partie des fonctionnaires de Jérusalem-Est dans la municipalité de Jérusalem-Ouest. Donc voilà, c'est pas des élus, mais c'est des gens très importants, c'est des gens qui ont une connaissance, c'est des gens qui ont des dossiers, c'est des gens qui ont des projets, qui ont des archives, qui ont des liens avec la population de Jérusalem-Est. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui, le fait que même quand un maire, on voit bien Moshe Leon, tente de faire quelque chose à Jérusalem-Est, il faut le municipal, ça se décide pas d'en haut. Alors là, on retombe sur des grandes problématiques générales, mais le municipal, généralement, ça part d'en bas. C'est des projets du coin de la rue, c'est des projets du quartier, c'est des projets d'une association d'habitants qui a besoin d'un nouveau ramassage scolaire, du ramassage des ordures. Enfin, vous voyez, si vous n'avez pas de lien avec la population. Et si la population vous tourne le dos pour des raisons bien compréhensibles, hein, pour des raisons politiques tout à fait compréhensibles, vous ne pouvez pas vraiment faire du municipal. Vous ne pouvez que finalement annexer, occuper, comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf dans une situation d'urgence, comme cette crise sanitaire, où là finalement il y a une espèce de décantation ou d'accélération ou de parenthèse, c'est ça qu'on ne sait pas, où finalement tout le monde se mobilise parce qu'il y a vraiment une question de survie de la population.
Alors parfois il y a des projets qui sont parfaitement formalisés, c'est ce qu'on voit en ce moment du côté de la municipalité de Jérusalem. On connaît évidemment cette Silicon Wadi, cette région à très forte concentration d'industries de haute technologie qui fait quand même du pays l'une des plus importantes places au monde dans l'innovation numérique, dans les technologies depuis longtemps maintenant, depuis les années 90. Et la semaine dernière, la municipalité de Jérusalem a confirmé le projet d'installer une partie de cette Silicon Wadi à Jérusalem-Est, à Wadi El-Jouz précisément, dans un quartier populaire palestinien proche de la vieille ville dont les habitants se retrouvent donc menacés d'expulsion.
Quand le nouveau maire de Jérusalem est entré en service, il a tout de suite vu le potentiel de ce quartier, qui est l'entrée la plus importante dans Jérusalem-Est. En conséquence, le maire mène un projet qui va transformer les rues principales de Wadi al-Jouz en quartier de la Silicon Wadi. Le gouvernement israélien va investir 2 100 000 shekels à Jérusalem-Est entre 2018 et 2023. La Silicon Wadi sera le nouveau centre de high-tech de Jérusalem-Est.
Voilà, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce projet et puis ce qu'il nous dit évidemment des ambitions politiques s'agissant de ces territoires annexés. Pour ce faire, nous retrouvons Frédéric Mettezo depuis Jérusalem, notre correspondant permanent. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric Mettezo ce matin. Vous êtes intéressé à ce sujet, vous étiez ce week-end justement dans ces quartiers que j'évoquais de Jérusalem-Est. D'abord, est-ce qu'on peut commencer Frédéric par présenter un tout petit peu ce projet de la municipalité? On verra ensuite quelles conséquences pour les gens sur place, mais concrètement qu'est-ce qu'on veut y faire?
Ah bah écoutez, la vidéo dont vous avez passé un extrait à l'instant est très évocatrice. Hein. On imagine, vous savez, dans des dessins virtuels, des grands immeubles de verre et d'acier, très futuristes, très beaux. C'est vraiment la high-tech, hein. C'est vraiment la Silicon Valley. C'est une espèce de petit Tel Aviv ou de petit Dubaï qu'on imagine au cœur de Jérusalem-Est. 250 000 carrés de bureaux, 50 000 mètres carrés de commerce et 50 000 mètres carrés d'hôtels. Le slogan de la vidéo, on l'a pas entendu jusqu'au bout, mais c'est les rêves deviennent réalité. Hein. Vous voyez, c'est il y a un petit peu ce côté prophétie autoréalisatrice. Sauf que je peux vous dire que le quartier de Wadi al-Jouz, donc où j'étais hier matin, vous l'avez dit, Florian, pour l'instant ressemble pas du tout à une Silicon Valley.
Ça ressemble à quoi aujourd'hui?
Ouais, alors Wadi al-Jouz, d'abord que je vous situe rapidement où on est au nord-est de la vieille ville, tout près de la vieille ville, on est au pied du mont Scopus et au pied du mont des Oliviers et... C'est vraiment, je dirais, le quartier arabe populaire, vous savez, notamment la rue Wadi al-Jouz, la rue principale du quartier, c'est une rue où on voit beaucoup de garages automobiles, de centres de lavage, de vendeurs de pièces détachées. Souvent, les boutiques sont construites en parpaing, avec des toits en tôle ondulée. Il y a quelques maisons, on va dire plus traditionnelles palestiniennes, qui, elles, vont abriter une pharmacie, un vendeur de shawarma, une épicerie, mais c'est vraiment un quartier, vous savez, comme disent les promoteurs immobiliers, qui est dans son jus. C'est très authentique. On est vraiment au cœur de la Jérusalem arabe.
Et alors, comment est-ce qu'on a accueilli, Frédéric Mettezo, l'annonce de cette nouvelle Silicon Wadi qu'on étend justement à Jérusalem-Est? J'imagine qu'on est extrêmement inquiet.
Ben oui, on est inquiet parce que d'après plusieurs ONG, d'après des comités de quartier, on estime que la construction de ces nouveaux immeubles, de ces gratte-ciels, va nécessiter l'expulsion de 150 à 200 commerçants. Vous savez, essentiellement, ces mécanos dont je vous parlais, parce que la rue Wadi al-Jouz, en tout et pour tout, elle fait 11 mètres de large. Il faudrait l'élargir à 30 mètres et il faudrait détruire dans un rayon de 500 mètres. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont très inquiets. Par exemple, hier matin, j'ai parlé avec monsieur Naïf Kiswani. Lui, il est vendeur de matériaux de BTP, de plomberie et de bricolage. Il m'explique qu'il y a un an, il a eu une réunion avec la mairie et d'après ce monsieur Kiswani, on leur a dit: que vous soyez d'accord ou pas, on continue, donc vous feriez mieux d'être d'accord et de prendre les indemnisations qu'on va vous donner. Donc il y a beaucoup de ces commerçants qui sont inquiets parce que si leurs boutiques sont expulsées, ils se disent: où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va devoir quitter Jérusalem? Est-ce qu'on va devoir aller quelque part ailleurs en Israël? Mais quand même, ce qui est intéressant, et c'est là que le projet, peut-être, je mets des guillemets bien sûr, un piège pour cette communauté, c'est que tous les garagistes ne sont pas propriétaires du terrain. Et il y a des propriétaires de terrain, des Palestiniens, qui sont prêts à prendre le chèque de la municipalité de Jérusalem. J'en veux pour preuve le nombre de personnes qui n'ont pas souhaité me répondre. Dès qu'ils ont vu que j'étais journaliste, il n'y avait pas de souci. Ils étaient très aimables. C'est toujours très facile de faire du reportage là-bas. Et dès que je leur ai parlé de la question, ils ont dit non, je préfère pas vous en parler parce que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à prendre les indemnités.
Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'a priori, ces gens-là sont déjà en discussion avec la municipalité et devraient a priori accepter ces indemnisations. C'est ça qu'il faut comprendre.
En tout cas, oui, un certain nombre sont prêts. Il y en a quelques-uns qui sont prêts à ne pas céder. C'était le cas de ce monsieur Kiswani dont je vous ai parlé. Lui, il me dit qu'il a déjà vu le précédent en 1967 lors de l'annexion ou lors de l'occupation, plutôt plus précisément, de Jérusalem-Est. Son père a été expulsé et on lui a dit « Oui, mais vous comprenez, c'est pour la bonne cause, on va construire des écoles. » Et puis, en fait, on a construit le quartier général de la police.
Vous parlez d'indemnisation. On a une idée de ce que ça représente. J'ai bien compris que les gens n'avaient pas tellement envie de vous en parler, mais vous en avez compris quelque chose?
Non, oui, ce que j'ai compris avec mes interlocuteurs à la mairie et mes interlocuteurs là-bas, c'est que pour l'instant, personne ne veut donner de chiffres. La mairie a tout intérêt à traiter ça en bilatéral, vous voyez, face à face et surtout pas avec un comité de quartier ou un comité de riverains ou un comité de commerçants.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement? Parce qu'on voit bien évidemment le projet politique qu'il y a derrière, qui est en gros de judaïser cette partie est de Jérusalem. On a compris que certains étaient d'accord pour avoir ces indemnisations, mais il y a aussi des résistances. Par ailleurs, il y a déjà des habitants qui ont vu leur bâtiment être démoli déjà sur ordre de la municipalité. Mmh. Donc on se dit que tout ça va produire de la colère. Il y a un risque d'embrasement autour de ce projet.
Ouais, vous savez, c'est toujours très très difficile de prédire un embrasement au Moyen-Orient et encore plus à Jérusalem. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des zones, on va dire, d'émeutes de basse intensité. Je pense au quartier de El Issaouiya, qui est un peu plus loin, qui est un quartier où la police israélienne fait régulièrement des descentes. Je pense au quartier de Shouafat, où là, bon, on a de temps à autre des affrontements. C'est presque toutes les semaines. C'est pas l'intifada, mais bon, c'est pas calme non plus. Et souvenons-nous, si je me trompe pas, c'était en 2015 ou en 2016, il y avait eu des émeutes très violentes là, en vieille ville, tout simplement parce que les autorités israéliennes avaient décidé d'installer des détecteurs de métaux, vous savez, comme à l'aéroport, près de l'esplanade des mosquées. Et là, ça avait été très violent. Il y avait eu des morts. Pourtant, quand on y pense, des détecteurs de métaux, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Vous voyez, c'est pas une expulsion, c'est pas une annexion. Donc c'est très difficile à dire. Mais si effectivement ces 200 et quelques familles sont expulsées, voire pour certaines perdent leur activité, ça peut toujours générer de la violence. Et je vous le redis, Florian, il y a déjà des violences avec pour l'instant un niveau de basse intensité.
Vous restez avec nous, Frédéric Mettezo. Je voudrais faire réagir peut-être nos deux invités, Sylvain Bull et Vincent Lemire, autour de ce projet donc d'extension de cette Silicon Wadi du côté de Jérusalem-Est. Sylvain Bull.
Oui, alors en effet, alors ce que peut-être on peut dire sur ce projet, c'est qu'il vient dans le cadre de la modification et de l'extension de la ligne de tramway qui existe actuellement et qui sera modifiée pour aller jusqu'au Mont Scopus. La deuxième chose, c'est que du point de vue urbain, il correspond aussi aux orientations municipales qui sont données maintenant depuis 20 ans de modifier le skyline, c'est-à-dire la silhouette de Jérusalem avec des tours très très hautes à l'ouest mais désormais à l'est, ce qui va d'ailleurs modifier en profondeur le paysage pastoral qui avait été conservé depuis 1930. Mais peut-être ce qu'il faut dire sur ce projet, c'est le mettre en perspective avec le projet économique de la municipalité. Ce que l'on ne dit jamais assez, c'est que le budget de la municipalité de Jérusalem, c'est un budget qui est extrêmement peu élevé. C'est la ville la plus pauvre du pays. Et les entreprises, les revenus des entreprises, les impôts issus des entreprises ne représentent que 20% du budget municipal. Tout le reste étant de l'aide de l'État. Or, ce type de projet, et on pourrait faire la longue liste de ceux qui sont similaires à l'Ouest, arrive dans ce qu'on pourrait appeler un cycle d'urbanisation du capital. Il s'agit bien d'amener de la rente foncière et d'amener des revenus à la municipalité. Alors, dans ce cycle d'urbanisation du capital, il y a des alliances, et c'est là où on va retrouver, en effet, une porosité entre le politique, le religieux et l'économique. Les groupes qui portent le projet de Wadi Jaws, comme celui de la Porte Nord de Jérusalem, sont des nationalistes religieux et des chefs d'entreprise, qui de plus en plus font pression sur le maire, dont il faudra quand même dire deux mots,
on va en parler,
sur sa très grande fragilité dans les alliances, et qui, en effet, poussent la municipalité à urbaniser désormais à l'est parce que l'ouest est désormais très très saturé, hein, avec aussi des fragilités de sol, une crise énergétique qui se profile. Donc les enjeux d'investissement et le cycle d'urbanisation du capital a lieu à l'Est, en effet dans le déni des populations de Jérusalem-Est, hein, qui vont se voir désappropriées. Et il y a déjà des petites ONG plutôt internationales qui se manifestent sur le premier tronçon de la porte de Damas, hein, à l'angle de l'école biblique, où là aussi il va y avoir des évictions assez importantes. Ouais. Et ça rentre aussi dans, je termine là-dessus, dans ce que moi j'appelle la périphérisation de Jérusalem-Est, hein, qui n'est plus que monnaie négligeable, non pas seulement juridiquement, mais au sens des cadres de vie. Mais en même temps, avec une population qui est extrêmement dépendante du bassin d'emploi de Jérusalem-Ouest, et qui du coup n'a pas beaucoup la possibilité de s'émanciper ou de se rebelle, et il n'y aura pas d'embrasement. Il y a juste des petits événements sporadiques de part et d'autre.
Vincent Lemire, peut-être une réaction, et puis pour aller un peu plus loin, justement, évoquer le cas de ces entreprises, parce qu'effectivement, faut-il encore que des entreprises viennent s'installer dans le cadre de ce projet de la municipalité. Il y a quelques jours, Hanan Ashraoui, qui est une militante des droits de l'homme palestinienne, a mis en garde justement les entreprises qui viendront s'installer, qui a expliqué qu'elles seront tenues légalement et financièrement responsables de tout engagement direct ou indirect dans ce projet, qui est illégal, en tout cas du point de vue du droit international. Est-ce que ces menaces à l'égard de ces entreprises peuvent avoir de l'effet? Parce que, effectivement, accessoirement, du point de vue du droit international, il n'y a aucune légalité à ce projet de la municipalité, Vincent Lemire.
Alors oui, là pour le coup, Hanan Ashraoui brandit une menace qui est bien réelle. Prenez par exemple le cas des financements européens, vous savez, les grands projets de recherche européens dans lesquels Israël est impliqué et très très bénéficiaire, les grands programmes ERC. Une entreprise ou une université ou un partenariat université-entreprise qui est installé à Jérusalem-Est ne peut pas bénéficier de ces financements, et un projet qui impliquerait une entreprise qui serait située à Jérusalem-Est se voit bloquée. Mmh. Donc là, pour le coup, il y a eu beaucoup de papiers, hein, y compris en Israël là-dessus. Hein. Là, on voit bien que pour le coup, la ligne européenne, j'allais dire, tient, y compris à Jérusalem-Est. Alors, je trouve ça absolument passionnant, là, hein, le sujet de Frédéric Mettezo sur la Silicon Valley, parce que je trouve que c'est hyper symptomatique du moment dans lequel on est. Effectivement, la Silicon Valley, on est vraiment au cœur de la communication politique israélienne actuelle, hein, c'est la vitrine technologique, etc. Pour le coup, ça colle très bien avec l'ancien maire Nir Barkat, hein, ce maire moderniste. Ça colle très bien aussi avec ce qu'a voulu faire en termes de communication, pour le coup, l'État israélien au moment de la crise sanitaire. Hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais au moment du jour de l'indépendance, on a fait défiler l'aviation israélienne, y compris au-dessus des hôpitaux de Jérusalem-Est, à la demande d'ailleurs de Moshe Leon, et notamment au-dessus de l'hôpital Augusta Victoria, donc juste derrière Wadi Jos, hein, sur le Mont Scopus et le Mont des Oliviers. Alors c'était à la demande de Moshe Leon, en disant il faut reconnaître aussi le travail des hôpitaux de Jérusalem-Est. Mmh. Mais vous voyez, on ne peut pas faire plus vertical comme reconnaissance. Ce n'est pas des applaudissements des balcons. Hein. Encore une fois, ça ne vient pas d'en bas, ce n'est pas horizontal. C'est l'armée de l'air israélienne qui défilait avec les couleurs israéliennes au-dessus des hôpitaux de Jérusalem-Est. Je referme la parenthèse, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, ce projet de Silicon Valley, il est hyper vertical, il est hyper... Il est violent, hein, au sens urbanistique du terme, et on pourrait le dire dans n'importe quelle autre ville. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de gentrification extrêmement fort. Frédéric Mettezo a raison de dire, Wadi Jos, c'est les garages. Je veux dire, c'est vraiment le tout petit peuple de Jérusalem-Est. Donc, on est là dans cette logique municipale. Sylvaine Bull a raison de dire qu'effectivement il faut faire de la taxe foncière, il faut faire de l'argent pour le budget, en rappelant aussi que la population de Jérusalem-Est, c'est aujourd'hui 40% de la population de la municipalité de Jérusalem, 40%, alors qu'elle n'était que de 25% en 1967. Hein. On a une vigueur démographique extrêmement forte. donc 40% de la population et seulement 10%, ouais. 10 à 12% du budget municipal. Donc une crise urbaine de plus en plus forte. Et donc vous voyez que ce projet de Silicon Valley, il est extrêmement décalé par rapport à la réalité. Par rapport aux réalités de Jérusalem-Est.
Alors, il y a ce défi pour la municipalité démographique que vous évoquez, mais il y a un autre défi pour la municipalité qui concerne les ultra-orthodoxes, parce que à Jérusalem, on a aujourd'hui des quartiers comme Mea Shearim, par exemple, où vivent majoritairement des ultra-orthodoxes, qui vivent d'ailleurs de façon extrêmement isolée du reste de la ville, selon les lois religieuses. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la crise sanitaire durant le confinement. Beaucoup ont refusé, justement, d'appliquer les règles sanitaires. Extrait.
Je vais traverser le quartier, alors je vais changer les plaques rouges de policiers pour passer en mode banalisé. Ils reconnaissent quand nous sommes en uniforme et ils pourraient nous jeter des pierres. Avec le coronavirus, la situation est encore plus tendue.
Rentrez chez vous.
Je t'ai déjà expliqué, j'habite ici, je veux juste respirer. Explique-moi pourquoi tu me verbalises. Je veux juste respirer. Là-bas, il y a 10 personnes ensemble.
Voilà, extrait recueilli par France 24, des communautés qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'État, pas plus celle de la municipalité, mais seulement l'autorité des chefs religieux. Ces dernières semaines, on y a vu des confrontations très importantes. Comment, et on va faire un tour de nos invités, on a gardé Frédéric Mettezo qui est toujours à Jérusalem avec nous, hein, notre correspondant permanent. Vous avez eu la gentillesse, Frédéric, de rester avec nous. Merci beaucoup. Comment cette municipalité gère cette logique de résistance dans laquelle se trouvent ces communautés ultra-orthodoxes? Et jusqu'où est-ce qu'il vous semble que cette résistance pourrait, elle aussi, avoir une influence sur le visage de la ville de demain sur laquelle on est en train de réfléchir, Sylviane Bull?
Allô?
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, ça y est, je vous entends. Oui, alors, concernant les ultra-orthodoxes, en effet, notamment la gestion de cette crise, on a vu qu'on a parlé de lune de miel avec les Palestiniens, et inversement, les ultra-orthodoxes ont été extrêmement stigmatisés par l'ensemble de la population, par l'administration, par l'État, par l'armée, et eux-mêmes ont traité le maire Léon Moshe d'antisémite. Donc c'est une chose extrêmement intéressante, parce que pour le coup, pendant cette gestion pandémique, ça s'est très bien passé, en tout cas en apparence avec les Palestiniens, pour ceux en tout cas qui sont du corps sanitaire, médical, etc. Mais en effet, les ultra-orthodoxes ont été extrêmement résistants, parce que tout simplement, ce ne sont pas des sujets impliqués dans la vie économique, ils ne sont pas productifs, ils ont leurs propres normes, qui pourtant sont extrêmement strict, hein, mais simplement, ils ne répondent pas aux injonctions municipales et étatiques. Ce qui est très intéressant, justement, c'est la position de Moshe Léon. Et c'est là qu'on voit la très grande fragilité du pouvoir municipal. Il faut le rappeler, Moshe Léon ne représente rien. Hein, il n'a pas de siège en tant que tel. Il est totalement tributaire des 17 sièges ultra-orthodoxes, un petit peu orthodoxes. Alors, ça veut dire que c'est cette coalition qui est véritablement le pouvoir municipal fait pression de façon très régulière et de façon pressante. Et au fond, Moshe Léon, à un moment donné, a quand même cédé devant les ultra-orthodoxes et leur demande de ne pas respecter les consignes. Et d'autre part, on a appris la semaine dernière que cette désobéissance allait s'accentuant, puisque 3 projets de loi vont passer au conseil municipal sous la pression d'Abayit Yaoudi, qui est le foyer ultranationaliste et d'extrême droite. Premièrement, pour augmenter la pension des mères de famille ultra-orthodoxes. Deuxièmement, pour augmenter le nombre d'écoles ultra-orthodoxes à l'ouest. Et troisièmement, et ça maintenant on le sait, pour revenir sur le statu quo, pour demander désormais que les quartiers mixtes qui sont laïcs et religieux deviennent plus religieux, notamment à l'ouest. Donc on voit bien que
Ce sont des projets qui ont une chance d'aboutir.
Absolument, ne serait-ce que électoralement. N'oublions pas que le système électoral est extrêmement pernicieux en Israël, y compris au niveau municipal, puisque Moshe Léon n'a pas de majorité. Il est élu, si l'on peut dire, avec la coalition qui est quasiment exclusivement religieuse, puisque nous n'avons plus que 14 sièges qui sont laïcs, on va dire, dans la municipalité. Donc, encore une fois, moi, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Nous avons trois Jérusalem, celle qui est religieuse, celle qui est laïque et celle qui est palestinienne. Et la religieuse est en train véritablement de prendre la main sur la mandature et sur le pouvoir municipal. Et l'enjeu de Moshe Léon, je pense que c'est très important de le dire et de le rappeler, ça n'est pas de gérer... La souveraineté d'Israël sur Jérusalem, qui encore une fois est actée, mais ça va être visiblement de résister ou non au maintien du statu quo qui, rappelons-le, maintient l'équilibre entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux.
Vous êtes d'accord, Vincent Lemire, au fond? Pardon, je vais faire tourner la parole, Vincent Lemire et puis Frédéric Mettezo. Vincent Lemire, vous êtes d'accord avec cette analyse? Au fond, le plus grand défi là de Moshe Léon, c'est de résister à cette poussée des ultra-orthodoxes qui, au niveau de la municipalité, on le voit, avancent des projets, cherchent à les faire passer et bouleversent d'une certaine manière les équilibres qu'il y avait jusqu'ici.
Oui, oui, je suis absolument d'accord. Il faut dire que c'est vrai que là, l'image qu'on a des quartiers ultra-orthodoxes est un petit peu datée, en fait. Enfin, elle a un petit peu... En fait, les ultra-orthodoxes sont de moins en moins isolés dans la ville. Ils sont de moins en moins une minorité et ils sont en train de devenir une majorité. Et la question qui se pose aux partis ultra-orthodoxes, c'est de savoir, un petit peu d'ailleurs comme au niveau national, hein, c'est de savoir s'ils veulent, parce qu'en fait ils le peuvent, hein, mais de savoir s'ils veulent faire élire un représentant direct ou s'ils préfèrent agir dans le cadre d'une coalition. Alors, en 2003, ils avaient choisi Uri Lupolianski et ça a été une catastrophe. Et donc, Moshe Léon, c'est la suite de ça, c'est-à-dire... On choisit quelqu'un, on vote pour quelqu'un qui, effectivement, comme l'a dit Sylvain Bull, n'a pas d'assise électorale propre. Et ensuite, on profite quand même du fait qu'on représente de plus en plus, de moins en moins, une petite minorité et finalement de plus en plus une majorité relative à Jérusalem-Ouest pour faire passer des projets très très importants qui, je veux dire, quand on parcourt la ville depuis 25 ans, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de Sylvain Bull, on se rend compte qu'effectivement, les quartiers ultra-orthodoxes qui étaient avant, comme vous l'avez dit, hein, des petits quartiers isolés, d'une certaine manière assez folkloriques, aujourd'hui, ce sont les quartiers véritablement laïcs, hein, qui sont en train de devenir des isolats à l'intérieur d'une Jérusalem-Ouest, dans le cadre d'un processus d'orthodoxisation. Donc, voilà, le Moshe Léon, il est tributaire de cette réalité démographique et politique nouvelle.
Frédéric Mettezo, c'est aussi des transformations que vous ressentez. Vous disiez tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous étiez allé dans ce quartier de Jérusalem-Est, pardon, donc à Wadi El-Jouz. Est-ce que vous pouvez, de la même manière, aller dans ces quartiers ultra-orthodoxes, à Mea Shearim, par exemple, que j'évoquais, pour y faire des reportages, ou c'est compliqué?
Non, alors, y aller, oui, à condition de respecter quelques consignes vestimentaires, donc une casquette ou un chapeau, ne pas avoir les bras nus, etc. Ensuite, faire du reportage, interviewer des gens, c'est quasiment impossible. Très peu parlent anglais, ils parlent hébreu, mais certains ne veulent pas parler l'hébreu, ils veulent parler yiddish, parce que l'hébreu est réservé, vous savez, à la synagogue et à la langue sacrée. C'est quasiment impossible de faire du reportage. Même de très grands journalistes de Haaretz qui connaissent ces milieux, se sont rendus à Bnei Brak ou à Mea Shearim. Bnei Brak, c'est une ville ultra-orthodoxe. C'est très difficile de faire des reportages. En revanche, effectivement, on peut traverser ces quartiers. Alors attention, il faut pas y aller en voiture le jour de Shabbat parce que c'est interdit, on risque de se prendre des pierres. Mais vous avez passé tout à l'heure un extrait de France 24. Je pourrais vous citer un reportage de France 2. Mon collègue de France 2 s'est rendu dans le quartier pendant la pandémie. Et ils ont été bombardés de sacs d'urine. Voilà. C'est-à-dire que les gens remplissent les sacs d'urine et les jettent sur les journalistes qui sont en reportage. Il faut savoir que l'armée israélienne est venue pendant le confinement pour disperser des grands rassemblements de foule. C'était très difficile. Donc ce sont des quartiers où on peut se rendre, mais faire du reportage, non. Ce qu'il faut savoir sur les équilibres démographiques dont parlait précédemment Vincent Lemire, c'est que Jérusalem, c'est à peu près 25% d'ultra-orthodoxes juifs, 37% d'arabes et 38% de laïcs juifs, hein, c'est à peu près les grands équilibres. Mais la population orthodoxe à Jérusalem, elle grandit très vite parce que ce sont des familles qui ont beaucoup d'enfants, beaucoup plus que les laïcs et même beaucoup plus que les arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et c'est vrai que ça fait aujourd'hui une force politique considérable parce que ce sont des gens disciplinés. Ils écoutent les rabbins de la communauté et ils votent comme un seul homme ou comme une seule femme, voyez-vous. Donc ce sont vraiment des gens qui font ce qu'on leur dit, il n'y a pas d'abstention là-bas, donc ils peuvent de plus en plus faire ou défaire les majorités. Oui. Dernier exemple de l'influence de ces rabbins, ça a été très difficile de faire accepter aux ultra-orthodoxes de respecter les mesures de distanciation physique et les gestes barrières, on les voyait sans masque, on les voyait presser les uns contre les autres, mais depuis que les rabbins ont pris conscience que le coronavirus était dangereux, depuis qu'ils ont vu ce qui se passait à Brooklyn sur leur cousin ultra-orthodoxe de Williamsburg, les rabbins ont dit on met des masques, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Mea Sharim, tout le monde met le masque, alors que dans les quartiers laïcs ou dans les villes laïques d'Israël, on a tombé le masque.
Oui, c'est ça le grand paradoxe, c'est que ce sont des populations qui rejettent l'autorité de l'État, qui rejettent l'autorité de la municipalité, mais qui en réalité sont présents dans le jeu politique, parce qu'il y a des relais politiques. On va s'intéresser à Ramallah, on est là à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem, Ramallah, capitale provisoire depuis 93 de l'autorité palestinienne, qui apparaît comme une petite bulle un petit peu à part, dans laquelle les habitants, pour le coup, là, parviendraient tant bien que mal à vivre à peu près normalement, en particulier les jeunes. On va s'intéresser tout de suite à Ramallah.
Nous sommes la troisième génération après la catastrophe et on ne veut plus se victimiser. On est même fatigué de tout ça. On se bat tous les jours en essayant de rendre notre culture plus forte. Israël essaie de nous diviser avec les murs, les checkpoints et par le simple fait qu'Israël est construit sur 80% du territoire palestinien. Faire de la musique ensemble, pas simplement pour faire la fête, mais pour établir une connexion forte avec toutes les personnes des territoires palestiniens. C'est permettre à la culture palestinienne de renaître.
Voilà, extrait de ce documentaire de Jessica Kelly, Palestine Underground, pour parler donc de Ramallah, on va retrouver Mariangela Gasparotto. Bonjour. Mariangela Gasparotto, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Bonjour,
oui,
merci beaucoup. Ça y est, je vous entends parfaitement. Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis Istanbul. Vous êtes chercheuse en anthropologie, rattachée à l'IFPO, l'Institut français au Proche-Orient, et vous êtes intéressée, vous, à Ramallah, capitale administrative de facto de l'autorité palestinienne, qui représente pour les Palestiniens un véritable espace de liberté. D'abord, on s'y sent peut-être plus en sécurité qu'ailleurs, et on peut venir y boire tranquillement, y compris de l'alcool, sans se cacher, y manger des sushis, parler avec des filles sans retenue. D'où vient cette liberté si particulière de Ramallah? On est là, une quinzaine de kilomètres de la vieille ville de Jérusalem. Mariangela Gasparotto, comment le comprendre?
Oui, bon, je pense que il faut comprendre ça par l'histoire de la ville, une ville qui est née il n'y a pas très longtemps et elle a été fondée en 1908 si je ne me trompe pas. C'est une ville qui est née comme ville chrétienne et c'est une ville qu'on pourrait dire est la conséquence de tous les basculements qui ont eu lieu au cours du XXe siècle. Donc il y a une minorité chrétienne et qui est vite dépassée par les musulmans. Cela est dû à la Nakba, donc à la catastrophe palestinienne de 1948, donc à la fondation de l'État d'Israël et à l'exil forcé des Palestiniens. À ce moment-là, trois camps de réfugiés sont construits en ville pour abriter surtout des réfugiés musulmans, alors que les réfugiés chrétiens qui provenaient des villes côtières, surtout de Haïfa ou de se sont installés, eux, dans les centres-villes, dans la ville historique. Ce sont eux qui ont fait partie du tissu urbain, du tissu économique, et qui, encore aujourd'hui, ce sont eux qui vendent de l'alcool. Vous évoquiez la possibilité de boire à Ramallah. C'est grâce à eux. Je pense que une autre clé de lecture très importante est due aux différentes migrations qui que la ville a connu avant et après Oslo, notamment après Oslo, avec en 95, l'autorité palestinienne s'est installée en ville. Et c'est à ce moment-là que des Palestiniens qui étaient exilés en 48 ont pu faire retour en Palestine et se sont installés notamment à Ramallah, en apportant des capitaux économiques et culturels très importants. Ce sont eux qui ont ouvert les bars et les cafés qu'on connaît bien et qui ont donné cet aspect cosmopolite à la ville.
Oui, donc il y a deux dimensions. Il y a la première qui est effectivement le retour de ces Palestiniens qui sont venus travailler pour les institutions, pour les ONG, pour des cabinets, pour des banques, et donc qui représentent ce canal économique que vous évoquiez. Et puis aussi peut-être cette identité chrétienne qui apporte aussi une forme de spécificité. Mariangela Gasparotto, vous êtes intéressée à la question de la jeunesse en particulier de Ramallah. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme, j'allais dire d'insouciance quasiment, de détachement en tout cas vis-à-vis de la chose politique chez les jeunes de Ramallah, ou au contraire, en réalité, il y a un engagement politique, mais il est peut-être un peu différent de celui qu'on peut voir dans d'autres territoires?
Oui, donc moi je me suis intéressée à des jeunes qui, en 2015, avaient entre 20 et 30 ans. Ce sont des jeunes qui ne venaient pas de Ramallah, qui étaient nés dans la périphérie de la ville ou bien dans les camps de réfugiés. C'était aussi des jeunes qui avaient déménagé à Ramallah pour trouver un travail ou bien pour acheter leurs études. Donc, ce sont des jeunes aussi qui fréquentaient ces cafés qui peuvent être vus, considérés comme justement l'apogée de cette dépolitisation, de cette génération Oslo. Ils ont été appelés souvent des enfants perdus. Alors que, selon moi, il faudrait voir ces jeunes comme engagés de façon différente. Il y a, ces jeunes sont extrêmement déçus par les partis institutionnels qui, d'après eux, n'ont pas su écouter et agir au nom de la population palestinienne. Ce sont des jeunes qui agissent aussi au nom d'autres idéaux, donc qui ont plus à voir avec d'autres causes. Donc, je pense que aussi les lieux du politique ont changé. Ce ne sont plus les partis politiques qui sont au centre des différentes géographies des jeunes, mais ça pourrait être aussi les cafés, ça pourrait être aussi des centres culturels ou des petites institutions indépendantes.
Oui, donc c'est pas une, il n'y a pas une jeunesse apolitique, mais c'est un engagement politique un peu différent. Merci beaucoup en tout cas Mariangela Gasparotto d'avoir été avec nous ce matin. Vous étiez avec nous depuis Istanbul et je rappelle que vous êtes rattachée à l'Institut français au Proche-Orient.
שבקרוב אין שום את חום גופך אני יודעת שאתה כבר בדרכך אליי.
Et un grand merci à nos invités qui étaient avec nous ce matin. Sylvain Bull, je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Paris et que vous allez publier, ça sera dans quelques jours, à la découverte Sociologie de Jérusalem. Grand merci également à Vincent Lemire qui était avec nous et qui a dirigé lui un ouvrage collectif Jérusalem, histoire d'une ville-monde qui était paru chez Flammarion. Et un grand merci également à Frédéric Mettezo, notre correspondant permanent de Radio France à Jérusalem, de nous avoir éclairé également sur cette série, dans cette série consacrée à quelques portraits de villes. Aujourd'hui, on s'est intéressé à Jérusalem. Demain, on ira du côté des États-Unis. Voilà, c'est avec cette chanteuse israélienne Carolina que l'on se quitte. Vous pourrez retrouver bien sûr les références sur la page de Culture Monde. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.